Lucie de la rue Mardrus, la dernière sirène. On ne dira pas le nom délicieux des gens anciens qui sont morts dans la propriété abandonnée, dont les grands et vieux jardins descendent jusqu'à la mer. Depuis des dizaines d'années, personne ne passe plus par là, mais peut-être quelque chose s'y passe-t-il. La mer, qui a tant de choses à raconter, écrit sans doute celle-ci sur le sable de la petite crique du bout de ses vagues, qui, chaque jour, laisse derrière elle de secrètes traces blanchâtres quand elle rétrograde. Mais que les lits de varech soient parfois creusés à marée basse, comme si des hanches s'y étaient couchées, c'est ce que nul ne saura jamais. Les drames d'un petit espace terrestre et marin, abandonné et absolument solitaire, ne regarde personne au monde. Un jour vint où la propriété fut achetée. La maison horriblement remise à neuf, les jardins retournés et taillés, il ne resta plus rien de l'abandon lentement amassé parmi ces choses comme un trésor sacré et ignoré. Et cet être réel, un monsieur, vint donc s'asseoir, banal et content, au milieu du passé, et sa famille autour de lui remplit tout le silence du bruit de la vie humaine. Or, un des premiers soirs, il descendit vers la crique dans l'intention d'y pêcher au filet. On pendait la crémaillère le lendemain et il voulait faire une friture prise de sa main pour le déjeuner qu'il donnait à ses amis. Vous le voyez, rougeau et amusé, qui, les pieds déchaussés, s'avance vers la mer retirée. Son grand filet, à peine disposé sur un carré de voie, pèse à son épaule au bord d'un long bâton. Le couchant autour de lui éclabousse le sable, la vase, les flaques. Le monde reluit à ses pieds comme une laque chinoise. Au large, le soleil trépasse. Il rêve de petites soles, de petites limandes, de carrelettes achetées, de crevettes. Il cherche un bon trou d'eau, trouble, et il le trouve. Un trou large, comme une vasque. En vérité, large et profond, comme la vasque des grands personnages d'autrefois. Tout à coup, cramoisi, cet homme regarda, les yeux hors de la tête. Ce qu'il venait de tirer dans son filet, avec effort, et le voyait rempli à craquer d'un long corps écaillé, dont les coups de queue frénétiques secouaient tristement et terriblement ses bras. Mais Ne devinait-elle pas aussi, prise dans les algues, les mailles et les cheveux, d'une figure humaine, dont les effrayantes prunelles pâles le regardaient? N'avait-il pas deux petites mains qui se crispaient, se débattaient? Il fit un mouvement pour fuir, et du reste se remit très vite, parce que les merveilles n'étonnent jamais les êtres ordinaires, et qu'une chose aussi adorablement terrifiante que de trouver une sirène dans son filet à crevettes ne peut pas émouvoir bien longtemps un monsieur qui pêche une friture sans penser à rien. Alors il s'exclama seulement: Oh, quel drôle de congre! Il eût été plus charmé de la rencontre d'une de ces pêcheuses de moules dont on peut évaluer du coin de l'œil l'embonpoint complaisant, que de la vue d'une créature fabuleuse, aussi effarée, mouillée, dorée. C'est pourquoi il n'eut qu'un gros rire quand la sirène parla. Elle dit: J'ai peur de toi, et maintenant, pourtant je t'attendais. Tu es cet humain charmant que ma mère voyait de loin entrer dans les beaux jardins, et dont elle était tant bavée parler en mourant, quand j'étais encore toute petite comme un rouget. Sa tête s'était redressée. Des gouttes d'eau ruisselaient sur ses joues livides jusqu'à sa bouche pourpre. Ses narines palpitaient comme des branchies délicates des poissons. Elle répandait, quand elle remuait, un fort parfum d'iode et de sel. D'ailleurs, la mer l'avait parée. Ses cheveux s'allongeaient entre les grémons qui s'en mêlaient. Son front se coiffait d'astéries. Et quelques perles s'étaient nichées dans le creux compliqué de ses oreilles. Et à son cou glissant, des colliers de coquilles et de coraux. Mais le plus beau des ornements, n'était-ce pas étalé entre ses seins, emprisonné dans les ficelles du filet, la chair lumineuse et violette de cette méduse semblable à une verrerie inattendue. Elle ne pouvait pas dégager ses mains, alors elle répéta: Je t'attendais. Comme il ne disait rien, elle le considéra longuement de ses immenses yeux couleur d'eau, où la macule des pupilles fleurissait comme un nénuphar noir. Vois-tu, dit-elle, ta pêcherie de ce soir, c'est le coup de filet du destin. Depuis si longtemps, je viens à marée basse me coucher dans ce lit pour te guetter. Des varechs doux et flottants en tapissent le fond, et je m'y endors souvent. la tête dans mes bras, à force de regarder vers la terre sans rien voir du tout. Et quelquefois, je me risque jusqu'au bord même des vagues, en rampant sur la vase et le sable. Je me traîne dans les cailloux du rivage, bien que mon corps précieux en souffre blessé. Je m'allonge dans les varechs encore mouillés et je me laisse regarder briller au soleil. J'ai même osé chanter pour t'appeler. Sais-tu que nul être au monde ne connaît encore, pas encore le goût d'huître de ma bouche? Pourquoi ne venais-tu pas? Mais à présent, tu m'as trouvé. Et je ne pousserai plus même le grand cri d'appel le long des grèves. Tu vas te coucher à mon côté, dans mon lit. Nous y épouserons dans l'ombre remuante et submergée des algues. J'enfanterai à mon tour, comme mes mères, mais la dernière de la race. Et ainsi les sirènes de la mer ne mourront point à jamais avec moi. Ne vois-tu pas comme j'arrive riche des profondeurs, toutes ruisselantes d'ornements maritimes? Les vagues me vêtent une robe de clarté. Et voici que je traîne derrière moi toute la mer pour manteau. Viens, je suis ta sirène nuptiale, ton épouse au roi, ton amante. Le pauvre homme dirigea un doigt vers les écailles changeantes et ricana. Mais pour qui me prends-tu donc?
Mais la dame salée ne comprenait point. Elle étala sur lui le bleu perplexe de ses yeux. Écoute-moi, écoute-moi. Sans doute tu ne connais pas encore les secrets marins, mais je te les enseignerai, parce que je suis seul à peupler la mer. N'ai-je pu connaître toute, moi, qui n'avais que ces vagues pour compagne? Ce sont elles qui ont arrondi mes seins comme les galets qu'elles roulent. Ce sont elles qui m'ont déposé ces perles dans les oreilles, elles-mêmes. Je me couche doucement en elles, et c'est d'avoir bercé mon corps qu'elles arrivent si creuses à ton rivage. Elles m'ont tout raconté. Je sais les jours du calme où se gonflent à peine leur peau glauque et succincte, et les jours de tempête où, noires de rage et blanches d'écume, elles accourent en folles furieuses charger terriblement les falaises. Je sais exactement le sens de la mer changeante, guerrière et rétractile. Sa rumeur monstrueuse est dans mon sang. J'ai vu de près ces rochers déchirants,
Mais aussi, j'ai connu les longs sommeils dans ces flancs saumâtres, parmi un peu de sable, de vase et de galets, entre deux ou trois coquilles et quelques algues, et aussi les repos profondément noyés. Quand d'étranges poissons viennent me regarder de toute leur âme de phosphore, et que les écailles de ma queue brillent comme l'or dans l'obscurité silencieuse. J'ai connu les matins de printemps, lorsque les jeunes filles jettent quelques fleurs dans l'amertume de la mer. Quelques fleurs pour la sucrer, la mer, et les soirs électriques de l'été, quand les barques traînent derrière elles un sillage de feu. Je sais tout, je t'apprendrai tout. Tu comprendras, comme moi, l'abîme et la surface, et les grands soirs au large. Alors que la douleur aiguë des goélands lézarde le ciel, et que ma tête chevelue, crevant l'immensité, émerge dans le couchant, pour que, tendant les bras insensés vers les horizons de flammes, je veuille, jusqu'au fond de mon être, boire la mer et manger le soleil. Elle avait enfin dégagé ses petites mains, qu'elle éleva au-dessus d'elle, la bouche grande ouverte et les yeux tournés au noir. Et l'homme s'écria tout à coup: « Mais c'est vrai qu'elle a des seins! » Alors, les mains en avant, avec un sourire heureux, il s'élança sur la sirène et de ses grandes paumes se plaquèrent d'un seul coup sur la gorge droite et ruisselante. Elle eut une grande clameur chromatique comme celle des steamers en détresse. Tout son corps se raidit d'indignation et, dans un frisson mouillé, se retournant contre lui, elle enfonça ses 10 ongles noirs, subits dans les joues rougeâtres, alors que d'un revers de la queue furibonde, elle lui piquait les jambes avec toutes ses épines défensives. Aveuglé, épouvanté, arrosé par les algues et les cheveux, brisé, blessé par les ongles et leurs épines, il put cependant la saisir aux épaules. Elle glissait dans ses doigts, se débattait parmi les lueurs. Mais d'un effort, il la fit retomber dans les mailles qu'il referma d'un mouvement brusque. Alors, la traînant furieusement derrière lui, il rentrait à grands pas vers la grève devenue sombre. Hurlant encore et tremblant de peur. Bon, ce n'est qu'un poisson, après tout, en matelote, et son gros rire à travers la montante nuit marine couvrait le cri inouï que vers le large et la liberté, jetait en mourant la dernière sirène.